Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Guy Wagner, vous écoutez Radio Grand Ciel à Dreux 97.7. L'émission Ensemble qui donne la parole aux associations. À la technique de l'émission, Pierre Écart. Nous accueillons aujourd'hui l'association Aéroclub de Dreux. En présence d'Alain Touchard, instructeur-testeur, José Rodriguez, élève pilote, et Luc Neveu, élu au conseil d'administration en charge de la communication. Lorsque nous arrivons à l'aéroclub de Dreux, nous découvrons le nom de Georges Libert. Pour introduire cette émission, je dirais que c'est un grand pilote qui est né en 1909 et décédé en 2002 à 92 ans. C'était un grand pilote pour l'aviation du XXe siècle. Il habitait la région, il a piloté jusqu'à 86 ans en totalisant 25 300 heures de vol. Comment avez-vous choisi ce nom pour l'aéroclub ?
Eh bien, nous voulions déjà apporter le nom d'un homme, d'un grand pilote qui avait fait beaucoup pour l'aviation et qui était toujours dans nos cœurs. Donc ce monsieur Georges Libert habitait à Rouvres. C'est un pilote qui a volé pendant la guerre, qui allait chercher les résistants avec des avions la nuit, éclairés par des feux de bois, etc. C'est un grand homme. Il a participé à des raids avant-guerre. Il a été président des Vieilles Tiges. C'est une association qui regroupe tous les pilotes anciens de France. Et on a eu la chance et le bonheur de l'avoir comme président de l'Aéroclub de 1972 à 1974.
Donc l'Aéroclub de Dreux a fêté en 2017 ses 80 ans, le 80e anniversaire, et ça a été à l'occasion pour l'Aéroclub de faire un retour sur l'histoire et de bien intégrer en fait deux éléments. La première, c'est que l'Aéroclub a une histoire qui est très liée à l'histoire du terrain d'aviation. Et deuxièmement, l'aéroclub a également une mission, en fait, de faire découvrir au grand public les activités aéronautiques. Et puis, c'est aussi l'occasion pour beaucoup d'avoir le pied mis à l'étrier pour pouvoir entamer une formation et accumuler des heures de vol pour exercer éventuellement une profession dans l'aéronautique, mais aussi, bien sûr, des loisirs, des vols de loisirs, et puis des vols également sportifs. Le terrain de Dreux, dans une autre qui n'a rien à voir avec l'aéroclub, mais dans une amicale, l'amicale de voltige aérienne, l'AVA, forme les champions du monde, ceux-là sur le terrain de Dreux, Vernouillet, Garnay, puisqu'on est sur les deux communes. Cette année 2017 a été aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui ont la mémoire de l'aérodrome. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des événements absolument incroyables autour de l'aérodrome. Et le principal témoin, en fait, c'est une personne qui est François Maillard, qui a fêté ses 90 ans le samedi 7 octobre 2017. Le jour de la porte ouverte où on célébrait les 80 ans, un heureux hasard. Et il travaillait à la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est un café qui a été dans sa famille pendant près de 50 ans. Et lui, y a travaillé jusqu'en 1948. Donc en clair, étant né en 1927, il a 5 ou 6 ans, en 32 ou 33, quand il fait son baptême de l'air sur un champ qui vient d'être moissonné. Et on le voit en photo devant, c'est pas très facile de passer à la radio une photo, mais imaginez un grand avion, un Farman 190 avec des grandes ailes, et puis un petit bonhomme qui avait 6 ans, qui venait de faire avec son père un vol découverte. Ensuite, la Maison Blanche va être témoin de deux choses. La réquisition de ce champ d'aviation. Il n'y avait pas de piste, hein, c'était juste un champ. On atterrissait, on avait une manche à air et qui donnait le sens d'atterrissage, de décollage. Ça permettait de circuler. Et donc les militaires français vont réquisitionner cette plateforme pour l'aplanir, la niveler, retirer les chemins, les fossés. Et elle sera utile en 40, au moment de la Seconde Guerre mondiale. L'armée française aura le renfort d'escadrilles de Polonais, d'Anglais. Malheureusement, la débâcle de 40 fait que l'Allemagne, les Allemands donc, occupent le terrain et construisent un gigantesque aérodrome militaire dont il reste beaucoup de traces, plus les pistes, qui étaient des pistes, ce qu'on appelle en dur, en béton. Il reste énormément de routes pour les avions, parce que les avions étaient dissimulé dans les bois. Voilà, donc un peu, c'est très intéressant au moment de faire le retour sur l'histoire, de voir que le terrain d'aviation à Dreux a beaucoup de sens et de résonance parmi les Drouais qui ont connu cette période et qui sont toujours très intéressés à avoir une réminiscence de ce qui s'est passé sur le terrain de Dreux. L'autre domaine très important, à part le terrain, c'est l'activité de formation de l'aéroclub. Et donc ici, on a un élève pilote qui peut peut-être nous dire son expérience.
D'abord, quand vous introduisiez l'émission en disant quand on passe devant l'aéroclub, il ne faut pas faire que passer devant l'aéroclub, il faut y rentrer. Et c'est une des premières épreuves d'un impétrant, j'ai envie de dire. C'est vraiment de passer la porte d'un aéroclub, de l'aérodrome. D'abord parce qu'il y a des affiches qui disent interdit au public, ce qui n'est pas très invitant, ça n'engage pas à passer les barbelés. Donc il faut que la passion soit présente. Et puis quand on arrive à passer la porte, finalement... on a une appréhension, qui sont ces gens, on a une vision de ce qu'est l'aéronautique comme étant un sport un peu inaccessible pour des raisons peut-être financières, pour des raisons peut-être de technicité importante. Et donc on continue encore à hésiter. Puis finalement on tombe sur des gens simples, passionnés, qui vous transmettent leur envie d'aller voir de plus près le ciel et puis de voir la Terre d'un autre angle que celui qu'on a l'habitude de voir depuis qu'on est né. Et puis on s'engage d'abord dans une formation, mais au fur et à mesure, on s'engage aussi dans un club, avec des activités, avec un état d'esprit, avec des solidarités, avec une histoire que je découvre à titre personnel, grâce au travail qui a été engagé notamment par Luc. Et très rapidement, on se confronte à ce que c'est que, à la fois, la passion, à ce que c'est aussi que la rigueur. À ce que c'est aussi alors la rigueur pour soi, mais aussi la rigueur pour la mécanique. On fait corps avec ce qu'on pilote quand même à un moment donné. Puis c'est pas le nôtre. Il y a des gens qui viendront après nous et il faut en tenir compte aussi. Donc c'est aussi une vraie école de solidarité à l'égard des autres, de sécurité aussi. C'est important. Et donc on apprend avec des gens comme Alain. Moi j'ai pas eu l'occasion de voler avec Alain, mais j'ai eu l'occasion de tester beaucoup d'instructeurs à l'aéroclub. On apprend à faire bouger des machines en toute sécurité, en prenant un plaisir incommensurable à décoller, à voler, et puis à atterrir en toute sécurité, à faire des voyages. Voilà. Donc moi, j'engage vraiment nos auditeurs à venir nous rencontrer au club pour partager, faire plus que partager, pour être partie prenante de cette passion du vol, de cette passion de l'apprentissage. Et au-delà de mon expérience personnelle, moi j'ai envie de aujourd'hui on n'a pas eu la possibilité d'avoir des jeunes de 15, 16, 17 ans qui pourraient avoir cette vocation de devenir ensuite des professionnels de l'aérien, mais vraiment avec ce qu'on appelle le brevet d'initiation aéronautique et avec les actions qu'engage dans le club Pierre Blondel, qui est professeur au lycée Rotrou, je crois.
Également à Branly.
Et à Branly. Donc ça permet à des jeunes d'avoir une subvention pour permettre d'avoir une prise en charge partielle des coûts de formation. Voilà.
Et... Alors pour faire le pont par rapport à ce que vous dites, on a pu bien sûr visiter un peu vos locaux, hein, on a visité vos ateliers, vos hangars, et alors on voit qu'il y a du matériel au club et il y a toute une organisation, donc... Comment vous faites fonctionner cette organisation ?
Alors, on a une association qui a la chance d'avoir des salariés. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce qu'on appelle un modèle économique particulier. On ne dépend que des cotisations des membres. C'est-à-dire qu'en fait, on est à peu près 85 membres, pilotes ou élèves pilotes. On a une cotisation annuelle qui n'est pas très élevée, de l'ordre de 200 euros à peu près. Et après, l'unité de compte à l'aéroclub, c'est assez simple, c'est l'heure de vol. Donc, l'heure de vol déclenche beaucoup d'actions, à la fois dans la maintenance mécanique des machines, mais surtout dans notre comptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne paye qu'au moment où le moteur est mis en route et on arrête de payer après avoir arrêté le moteur. Donc l'heure de vol déclenche pour nos avions, puisque nous sommes propriétaires pour l'instant de 4 avions légers que vous avez vus dans le hangar, ça déclenche en fait des systèmes de prise en charge par un pilote qui est soit élève pilote, soit commandant de bord. S'il est élève pilote, le commandant de bord, c'est un instructeur. Et donc la partie administrative est gérée par une secrétaire qui est salariée du club, Madame Nathalie Belon. Et on a également un atelier mécanique qui, pour l'instant, il a été très longtemps à l'intérieur du club. Et cette année, en 2017, notre mécanicien a fait valoir ses droits à la retraite et nous faisons sous-traiter ses activités de maintenance mécanique. Notre budget est d'environ 200 000 euros et on fait grosso modo 1000 heures de vol, sachant qu'un élève, un pilote doit faire au minimum 10 à 12 heures par an, c'est-à-dire une heure par mois de vol, et qu'une heure de vol, c'est entre, suivant les avions, entre 120 et 150 euros de l'heure. Et avec une heure de vol, on parcourt déjà une bonne distance. On a donc la possibilité soit de faire des vols locaux, soit de faire des voyages et d'aller soit en France, soit on a quelques vols à l'étranger. Peut-être qu'Alain, tu as en mémoire quelques vols qui t'ont marqué ?
Bien sûr, en particulier pour aller voir des meetings, des superbes meetings en Angleterre. Donc on part à un ou deux avions, avec quatre personnes dans chaque avion, ce qui permet de réduire les coûts et d'aller voir des meetings fantastiques en Angleterre, parce qu'en Angleterre, ils ont la culture des vieux avions et c'est très émouvant de voir une vingtaine de Spitfire ou de vieux Mustang, etc. C'est basé sur un terrain qui est anciennement de la RAF, qui est consacré maintenant uniquement sous forme de musée permanent, et deux à trois fois par an, ils organisent des meetings fantastiques.
J'ai eu la chance, moi, de t'accompagner quand j'étais élève pilote dans ma formation à Duxford, donc. Oui. Et nous sommes partis à quatre. Et la mécanique, en fait, est simple. Il y a à peu près quatre heures de vol pour aller à Duxford. Donc, on fait une heure de vol et on se pose. On s'était posé au Touquet Paris Plage, qui est une magnifique plateforme. On change de pilote. Donc, un deuxième pilote prend le relais et donc va faire la liaison de Touquet-Paris-Plage à Duxford. Et puis, au retour, c'est l'inverse. Les deux qui n'ont pas piloté l'aller pilotent au retour, ce qui fait que c'est un vol très, très plaisant, qui est très court, finalement, puisque ça passe très vite. Et on peut faire l'aller-retour dans la journée et assister au meeting. On a eu également l'occasion d'aller en Allemagne ensemble.
Oui, exactement.
Friedrichshafen, sur le lac de Constance.
Oui, pour un salon aéronautique de l'aviation légère qui a lieu tous les ans au mois d'avril et qui est une vitrine très intéressante pour toute l'aéronautique légère et en particulier pour les ULM également, pour tous les équipements, tous les radios, etc. Et tous les ans, il y a de nouvelles technologies qui nous montrent que ça avance à une vitesse grand V. Je parle en particulier des GPS, etc., qu'on trouvait il y a 10 ans sur des avions sophistiqués et que l'on retrouve maintenant sur des ULM ou des avions légers pour un prix, un prix abordable.
Et alors, au point de vue activité locale, vous avez
Alors, au point de vue activité locale, on a en fait, je dirais, deux choses principales. On a des gens qui habitent Dreux ou l'agglomération drouaise, mais aussi on est une plateforme, on n'a pas un aérodrome, mais une plateforme également, qui attire beaucoup les gens de la région parisienne. Parce qu'en fait, ceux qui veulent apprendre à voler à Paris, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Là où c'est possible, il y a beaucoup de monde et il ne faut pas faire de bêtises. Et donc, quand on est à Dreux, c'est la campagne et c'est très facile d'apprendre à piloter à Dreux. Donc, on a au club des membres de la région, mais aussi pas mal de personnes qui sont... Notre président, par exemple, habite à Mantes-la-Jolie, je crois. Et donc, François Réteau a décidé, depuis plusieurs années, de piloter à Dreux et de prendre la présidence de l'aéroclub de Dreux. Notre trésorier est à Paris. Donc, c'est une ouverture également assez large par rapport à la région drouaise. Alors, pour le public, nos portes ouvertes, que cette année on a organisées en avril et en octobre, ont eu pour objet d'être une porte ouverte sur le terrain. L'aéroclub a cette vocation aussi de permettre à des gens qui veulent... C'est une expression qu'on utilise, la troisième dimension. Alors, qu'est-ce que c'est que cette troisième dimension ? C'est quand on se déplace à pied, en voiture, en vélo, en ski ou autre, on est sur deux dimensions, sauf quand ça tourne vinaigre et qu'on part en troisième dimension dans ces modes de transport, c'est toujours délicat. Mais l'avion, c'est un tout petit peu différent. Il y a cet apprentissage de la troisième dimension. Et pour, je vais donner mon exemple... Quand, en 2011, j'ai rencontré Alain Touchard pour des raisons professionnelles, je devais apprendre à piloter. Et donc, j'ignorais qu'il y avait un aérodrome à Dreux. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir pousser la porte de l'aéroclub de Dreux et de rencontrer Alain Touchard, qui m'a dit la première chose à faire, c'est de monter dans un avion, de vous mettre à la place du pilote. Je serai à côté de vous. En fait, je piloterai l'avion, mais c'est vous qui serez le pilote et vous sentirez, vous voyez à l'époque... Et c'est vrai que cette troisième dimension, tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même, c'est extrêmement difficile de se mettre à la place. Et l'aéroclub a cette fonctionnalité, a ce rôle, cette espèce de mission. Le public vient pour simplement admirer la région localement, mais également, et ça c'est toute chose qui est très important, c'est qu'on trouve des vrais mordus à l'aéroclub, c'est-à-dire des gens qui ont eu ce rêve et qui ce rêve devient accessible pour des budgets qui restent malgré tout relativement abordables pour des budgets. C'est pas énorme en fait en termes de frais, c'est plutôt du temps, parce qu'en fait une formation, et peut-être que tu peux en parler.
Et oui, donc c'est une formation qui est exigeante. Elle se décompose en deux parties, une partie théorique et une partie pratique. Une partie théorique qu'à l'aéroclub de Dreux, maintenant, nous menons de manière dématérialisée via un e-learning au travers de l'Institut Mermoz. Donc moi, j'invite les auditeurs aussi qui sont intéressés à aller voir le site de l'Institut Mermoz pour s'intéresser aux tarifs. Mais je crois qu'une séquence de cours coûte environ 70 euros. Quant à la formation, elle se déroule de manière progressive. On apprend effectivement dans un premier temps à faire évoluer l'avion de manière très très simple sur l'axe, alors j'allais dire le roulé et le tangage, mais on va dire des choses un peu plus simplement, de droite et de gauche et puis en avant en arrière, voilà, pour faire pour illustrer un peu le propos. Et puis au fur et à mesure, on apprend à tenir un cap, à tenir une altitude, une direction et puis une hauteur par rapport au sol. Et puis au fur et à mesure, on apprend des procédures d'arrivée et puis des procédures de départ, et puis on apprend à naviguer, c'est-à-dire à se déplacer entre plusieurs points en un temps déterminé, et puis à s'écarter le moins possible du trajet qu'on s'est fixé, en faisant attention à l'environnement, en faisant attention au contexte qui nous environne, à avoir la conscience de la situation. Je crois que c'est important, on n'est pas tout seul, encore une fois, dans sa machine. Il y a des gens qui volent, il n'y a pas de feu rouge, donc il faut avoir une constance de l'attention. Et puis je pense qu'un des éléments, et tous les élèves pilotes là-dessus seront d'accord avec moi, la maîtrise de ce qu'on appelle la radio, c'est-à-dire la capacité à pouvoir communiquer avec à la fois des contrôleurs, avec les autres appareils, qui est une donnée essentielle de la sécurité, mais la phraséologie étant ce qu'elle est, elle est très codifiée, c'est parfois un autre langage qu'il faut apprendre, et ça peut être un sujet parfois long d'apprentissage. Et la partie théorique, qui elle est un peu le code, ce qu'on pourrait appeler le code pour nos amis véhiculés en automobile. C'est tout ce qui assure à la fois la codification des trajets, mais il y a aussi des aspects en lien avec la mécanique, avec la météorologie, avec y compris les facteurs humains. Quand on pilote, on peut pas appuyer sur le frein et s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, donc il y a aussi son état de santé, hein. Les pilotes en règle générale sont des gens qui sont en bonne santé, ils ont une vie saine et puis ils sont relativement en bonne santé, hein, c'est mieux, et donc il y a les aspects humains, il y a les aspects en lien avec la réglementation aussi. Donc c'est une formation qui est à la fois, il y a du travail, mais c'est à la portée de n'importe qui, pour peu qu'on veuille se donner un peu le temps. Luc parlait du temps. Effectivement, au-delà du budget, c'est plus le temps qu'il faut y consacrer. Moi, je pourrais parler de mon exemple personnel. Moi, j'ai une activité professionnelle qui me prend un petit peu beaucoup. Et je suis élève pilote depuis 3 j'ai honte de le dire, mais ça fait 4 ans. Mais parce que aussi, à un moment donné, ça me plaît d'être en situation d'apprentissage. Et puis, je sais pas, fondamentalement, j'ai un peu peur de me lancer dans les examens. J'ai peur de l'échec un petit peu. Mais ça, c'est mon aspect. Moi, c'est un peu personnel et psychologique. Mais voilà, concrètement, moi, je connais des jeunes pilotes qui aujourd'hui en sont à leur 45e heure de vol, qui sont prêts à passer leur brevet de manière
en 3 mois. 3 mois de formation, 45 heures de vol, une personne de 17, 18 ans, 19 ans peut y arriver sans problème.
Alain, oui, t'es d'accord ? Après, le problème, c'est la disponibilité des avions, c'est la disponibilité de l'instructeur. L'essentiel, c'est de faire les choses régulièrement. C'est-à-dire, il est conseillé, par exemple, de voler deux fois par mois et de voler régulièrement, plutôt que de venir 15 jours de suite et puis d'être 3 mois sans revenir. Parce que là, il faut reprendre les cours, il faut reprendre les leçons. Donc l'essentiel, c'est effectivement d'avoir un suivi régulier. Mmh. Et c'est très enrichissant au niveau personnel et au niveau humain également. Moi, je dirais que depuis que je suis instructeur, ça fait quand même plus de 30 ans, j'ai gardé beaucoup d'amitiés, beaucoup de personnes qui sont toujours soit sur place, soit parties, et avec qui j'ai toujours d'excellentes relations. Et ça, c'est important pour les facteurs humains.
Est-ce que tu peux nous parler, Alain, je pense que José et moi pourrons témoigner aussi, de ce moment clé qui est le lâcher. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'instructeur pour le lâcher? Et peut-être expliquer ce que c'est que lâcher.
Alors, le lâcher, c'est un moment effectivement très important pour les deux, pour l'élève et pour l'instructeur. Le lâcher, eh bien, c'est l'instructeur descend de l'avion et laisse l'élève partir tout seul pour la première fois. Donc après, je ne sais pas, ça dépend des individus, mais après 15 heures ou 20 heures passées ensemble, l'élève se retrouve tout seul au moment du décollage. Donc il y a toujours une appréhension, bien sûr, des deux côtés, je pense. L'instructeur se demande si tout va bien se passer. Donc en principe, on essaie d'avoir une radio sous la main pour donner des conseils éventuels. C'est tout le feeling de l'instructeur, c'est à lui de savoir quand lâcher cet élève. Et bien sûr, avant de le lâcher, il y a certaines règles à appliquer. En particulier, on ne lâche pas quelqu'un qui n'a pas fait tous les simulacres de panne, etc. Parce que ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Par contre, je peux vous dire que quand tout se passe bien, c'est un plaisir intense pour les deux.
C'est tout à fait vrai. Moi, je me souviens comme si c'était hier du lâcher. Donc, on sait que ça va se passer, on sait que ça va arriver. Et puis, le jour où ça va se passer, on dit, les anciens parlent de piloter avec les fesses. Bon, c'est un peu trivial comme expression et on ne sait pas. Mais ce jour-là, le jour de son lâcher, on sait exactement ce que ça veut dire, piloter avec les fesses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un mot avec l'instructeur, mais on ne se voit pas puisqu'on est côte à côte. Mais on sait que l'instructeur va descendre de l'avion. On sait qu'on va se retrouver seul et qu'on va être le commandant de bord pour la première fois. Et donc, moi, dans ma tête, j'ai dit, je ne suis pas prêt, ce n'est pas possible, je vais lui dire non. Mais en fait, l'avion, j'ai reposé l'avion, on est sorti de la piste, on est allé... Et Alain est descendu, il m'a dit, tu vas faire un tour tout seul. Le tour, c'est le circuit de piste, un décollage. On fait le tour du terrain et on vient se reposer. Et dans ma tête, au moment où j'ai dit ça, je vais dire non. Et en fait, la réflexion, elle est exactement ce qu'a dit Alain. C'est-à-dire que si l'instructeur estime, lui, que le pilote, l'élève pilote est capable, et cette transmission, cette confiance, ce travail humain d'apprentissage, de transmission de connaissances, il est vraiment incroyable. J'ai eu la chance de suivre dans ma carrière beaucoup de formations, à la fois universitaires, à l'école, après en formation professionnelle. C'est la seule formation vraiment qui allie du pratique, du théorique, mais surtout la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi est... si j'avais des enfants qui seraient en âge de former, ça serait vraiment la première formation que je leur recommanderais de faire. Cette formation de pilote, élève pilote, elle sert toute notre vie, même si on ne pilote pas, parce qu'en fait, elle a appris à nous connaître.
Moi, je confirme ces éléments. Il y a une concentration qui est... Enfin, moi, je n'ai jamais vécu quelque chose qui soit aussi proche d'une concentration absolue. C'est-à-dire que, d'abord, on tourne le regard et on ne voit pas l'instructeur à droite. Donc ça déjà, c'est quelque chose. On est seul dans la machine.
L'avion est plus léger.
L'avion est plus léger. On décolle d'une autre manière. Donc il y a un comportement de l'avion qui est différent. Et objectivement, on se retrouve, j'ai envie de dire, face à soi-même. Alors les mots... Mais vraiment, quand vous voyez dans un film, vous entendez une voix qui vous donne des conseils, moi j'entendais la voix de mon instructeur qui me répétait, alors axe, plan, vitesse, parce que ça tous les instructeurs du monde le disent à leurs élèves, axe, plan, vitesse sur la dernière ligne droite avant de poser l'avion, c'est un des moments les plus critiques, où on doit avoir une vitesse particulière, un angle d'approche assez fin, et puis le mieux étant d'être orienté vers la piste, c'est quand même mieux, et de maintenir ces constantes tout au long de l'approche. Alors, quand on vole, ça va, on vole, on maintient une altitude, c'est pas... Mais alors, l'approche du sol est un moment assez particulier, et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, vous voyez les choses avancer à une vitesse qui n'est pas la vitesse de la réalité. Quand vous êtes en hyper-concentration à ce moment-là, après, avec le temps, peut-être que ça s'estompe un petit peu, mais les premières fois, c'est quand même quelque chose de très, très, très réjouissant, à la fin, mais sur le moment, c'est vraiment un moment, effectivement, avec soi-même intense.
Alors, comme l'heure tourne, bien entendu, hein, c'est une conversation très passionnante. Je vous propose, c'est de parler un peu des projets futurs.
Oui. Alors, le projet futur, bah, il est assez simple. On va le résumer en trois choses. Un, on aimerait bien fêter nos 100 ans en 2037. Et en fait, on est en train d'écrire ce qu'on appelle un log de nav dans notre jargon. C'est-à-dire, en fait, on prend une feuille et on va écrire les différentes destinations et les caps et les temps et toutes les étapes pour nous permettre d'arriver en 2037. Donc, un log de nav, c'est pour une navigation de quelques heures. Là, on est sur une navigation d'une vingtaine d'années, deux décennies. En aéronautique, c'est pas très long. Et il y a deux axes principaux. Le premier, c'est ben, le terrain avec les autres usagers. On n'est pas seul, il n'y a pas que l'aéroclub sur le terrain. Il y a une école privée, ULM. Il y a une entreprise, Avirex, qui est le distributeur et la plateforme technique, pas le distributeur, mais la plateforme technique du plus grand fabricant au monde de moteurs d'avion qui s'appelle Rotax. Et donc la société Avirex est sur le terrain. Il y a également des propriétaires privés de hangars qui ont des aéronefs à Dreux. Donc le terrain, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Donc on souhaite améliorer sa sécurité, diminuer les nuisances aux riverains, c'est évident, et surtout continuer à apporter du plaisir à ceux qui veulent voler. Ça, c'est l'axe premier. Le deuxième axe, il est encore plus essentiel. La raison d'être de l'aéroclub, c'est son école. On apprend à piloter pour avoir la licence, qu'on appelle dans notre jargon le PPL, la licence de pilote privé. Et donc, cette licence, bah, c'est des cours, bien sûr, des instructeurs. Mais cette licence, on la proroge, c'est-à-dire qu'on doit faire, comme le disait Alain, des vols réguliers. Et tous les deux ans, on refait un audit avec un vol supervisé par un instructeur qui va revalider avant l'expiration de sa qualification. Donc on est toujours à l'école. En fait, l'image très simple qui permet de comprendre, c'est on a deux sacs sur le dos. L'épaule droite a un sac qui s'appelle chance. Quand on a sa licence, on a un gros sac chance qui est énorme, gonflé. Puis on a un petit sac sur l'épaule gauche qui s'appelle expérience. Et lui, alors là, par contre, il n'y a rien dedans parce qu'il faut construire son expérience. Et l'objectif d'un pilote, c'est de transformer la taille de son sac chance en sac expérience, c'est-à-dire d'accroître. Et en fait, quand on a sa licence de pilotage, qu'on peut avoir entre 3 mois et quelques années pour ceux qui prennent plus le temps, c'est le droit d'apprendre à piloter. Et on veut, dans les années qui viennent, dans les deux décennies qui viennent, pour 2037, réellement réaffirmer notre colonne vertébrale qui passe par un chef pilote. Donc on est en réflexion pour pouvoir avoir un chef pilote, si on peut, de le salarier, parce que c'est la cheville ouvrière qui a expliqué le succès de l'aéroclub dans les années 70. Ça veut dire que dans les années 40, un monsieur comme Gaston Picquoy, premier instructeur au club, qui a été relayé par Amédée Gauvin ensuite, puis par André Hamelin, tous ces noms sont très familiers aux Drouais. Ces trois personnes ont vraiment porter leur pierre à l'édifice pour que dans les années 70, des jeunes de l'époque, qui sont aujourd'hui entre 65 et 75 ans, donc ils sont moins jeunes bien entendu, mais ont fait une vraie carrière dans l'aéronautique. C'est Jacques Joran par exemple, Alain Touchard, beaucoup de personnes. Et on souhaite que pour 2037, on ait encore plein de jeunes de Dreux qui puissent faire une carrière dans l'aéronautique.
Eh bien merci d'être venu présenter cette association. Et ben, nous allons maintenant terminer l'émission. Nous vous souhaitons de bons projets pour l'avenir, d'avoir un superbe aérodrome. Et nous disons à nos auditrices et auditeurs à une prochaine émission avec une autre association. Merci, au mois prochain.
Merci. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,